Bien, chers amis, bonjour. Nous avons un programme extraordinairement long aujourd'hui, puisqu'il y a 71 versets. On va essayer de faire les choses proprement et donc de ne pas trop en laisser en cours de chemin. Juste peut-être rappeler les raisons d'être de ces études bibliques. Et ce qui me permettra de me justifier sur le fait que parfois nous prenons un peu de temps pour des aspects qui vous semblent peut-être peu significatifs ou anecdotiques. Certes, il est toujours intéressant de découvrir le sens d'un texte, et c'est quand même l'objet de nos études bibliques, découvrir ce que le texte veut nous dire. Mais je crois que le texte a aussi une autre fonction, et c'est la raison d'être de nos études bibliques, à la fois à plusieurs et puis avec quelques personnes dont l'animateur qui a une connaissance peut-être plus précise des textes bibliques, c'est de voir comment ces textes ont été écrits de telle manière à créer un lecteur. Et au fond des fois, il est vrai que nous prenons du temps à décortiquer le texte, à passer du temps sur des mots qui semblent peut-être peu significatifs, mais qui en fait permettent de mettre à jour la mécanique mise en place par le ou les rédacteurs du texte pour provoquer quelque chose chez le lecteur. Et au fond, notre travail, c'est aussi de voir comment le texte fonctionne, ce qu'il produit, ce qu'il essaie de produire comme effet sur le lecteur. Donc c'est un peu comme ouvrir le capot d'une voiture et y repérer la mécanique et voir ce que le texte est capable de faire aussi, voir sa puissance. Donc pas simplement dégager une prédication pour aujourd'hui, mais voir quels sont les ressorts et voir comment le texte a été rédigé de telle manière qu'il ait un effet performatif et donc qu'il atteigne l'objectif qu'il s'est assigné. Voilà, donc c'était par avance pour m'excuser du fait qu'on passerait peut-être du temps sur des choses qui vous semblent pas trop importantes, mais qui, dans l'économie du texte, ont leur place et leur signification. Voilà, après m'être justifié par grâce seule et non par mes œuvres, je propose d'entrer dans ce texte, Jean chapitre 6, les 71 versets. C'est un texte intéressant, au moins par la place qu'il occupe dans l'évangile selon Jean. Parfois l'évangile selon Jean est qualifié d'évangile des signes. Signe, c'est l'autre mot pour miracle. Mais en grec, séméion, qui désigne les miracles opérés par Jésus, signifie signe. Sémaphore, c'est ce qui porte des signes. Donc les séméia, les signes opérés par Jésus selon l'évangéliste Jean, sont autant de signes, autant de miracles qui structurent la première partie de l'évangile. Et là, on est au centre des sept signes que contient cet évangile. Il y en a trois avant le miracle des pains et trois après le miracle des pains. Quels sont-ils ? Tout d'abord, on avait vu au chapitre 2 l'eau changée en vin. Ensuite, au chapitre 4, on est passé par-dessus la guérison du fils de l'officier. Au chapitre 5, il y avait la guérison d'un paralysé. Ici, au chapitre 6, il va y avoir la question du pain, qui est donc au centre des sept signes. Nous allons également voir la marche sur les eaux. Ça sera un peu plus loin dans le chapitre 6. La fois prochaine, nous verrons au chapitre 9 la guérison de l'aveugle né. Et puis, nous verrons une fois suivante, au chapitre 11, la résurrection de Lazare. Et donc, avec la question du pain, nous sommes au milieu de ces sept signes. C'est une façon de dire l'importance de ce signe. Et c'est peut-être ce qui explique aussi ce long développement autour du signe du pain. On aura l'occasion de le redire dans le cours de notre séance. Il n'y a pas d'institution de la scène chez Jean. C'est le seul évangile où on ne raconte pas tout ce qui se passe autour du pain et du vin qui vont donner le sacrement de la scène ou de l'Eucharistie. En revanche, ici, il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'il y a peut-être quand même un récit d'institution de la scène. Mais pas au sens liturgique et formalisé que l'on va découvrir dans les autres évangiles, mais plutôt au sens d'un geste qui essaie d'ajouter de la vie à la vie, et qui ne se pense pas comme un geste rituel, mais plutôt comme un geste symbolique. C'est-à-dire pas un geste destiné à être répété à l'identique dans une célébration liturgique, mais plutôt un geste qui permettra à certaines personnes de se sortir d'une situation où ces personnes peuvent avoir le sentiment d'être un peu à bout de souffle, ou en tous les cas, d'être un peu en sous-régime, en manquer d'énergie. Je le dis de façon très peu théologique, délibérément. Bien, ce que je propose, c'est de couper notre texte en séquences cohérentes, pour que nous puissions les passer en revue et avoir le temps d'y aller un peu en profondeur. Donc je propose de commencer par la question du signe des pains, les versets 1 à 15, si quelqu'un pouvait lire ces versets 1 à 15 dans la version qui lui convient. Si personne ne propose, je le fais, bien sûr, je paye pour. Jean-Claude, merci beaucoup.
Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, instinctivement, comment intituleriez-vous ce texte ? Quel titre lui donneriez-vous à ce texte ? Instinctivement. Vous avez peur, hein ? Multiplication des pains. Est-ce que quelque part il est écrit que les pains sont multipliés ? Non, méfiez-vous des titres. Hein. Distribution des pains, c'est intéressant. C'est plus juste par rapport à ce qui se passe vraiment. Mais vous voyez, multiplication des pains, c'est à la fois le titre communément accepté par tout le monde et qui est peut-être le plus éloigné de ce que dit le texte, au moins dans la lettre. Parce que multiplication des pains, on a l'impression qu'on a de plus en plus de pains au fur et à mesure. Ce n'est pas de cela dont il est question dans le texte. Vous voyez, ça donne l'image d'un signe qui est effectivement surnaturel parce qu'on a des petits morceaux de pain qui vont se dédoubler, etc. Le texte est beaucoup plus sobre et ne parle pas de multiplication. Il parle effectivement d'une distribution, d'un partage. Bien. Alors maintenant, on va prendre verset par verset. Et puis voir quels sont les différents éléments qui vont donner du sens et vont essayer de produire quelque chose sur le lecteur. Alors Jésus s'en va de l'autre côté de la mer de Galilée, donc aussi appelée la mer de Tibériade. Du coup, il se retrouve où ? Là, il faut visualiser un petit peu la topographie du lieu. Il se retrouve à l'est. Aujourd'hui, ça serait où?
Jordanie.
Oui, ou Syrie. Selon où il se trouve, s'il est au nord, il est quand même plutôt vers le Golan. Bon, en tous les cas, il est hors de la terre promise. Vous voyez, ça, ce qui est important, c'est qu'il franchit une frontière. Il n'est pas en terre promise. Il est chez les gentils, chez les païens. Et ce miracle, au sens de signe, intervient non pas dans la terre promise, mais à l'extérieur.
Ce sont des Galiléens, c'est une foule galiléenne.
Qui va le suivre,
oui.
Alors qu'il franchit l'autre côté. Mais oui. J'allais dire qu'on a peut-être un signe qu'il va y avoir quelque chose de plus ouvert que ce à quoi on est habitué. Effectivement, il est suivi par des gens de chez lui, mais on va peut-être voir que dans le corps du texte, il y a une ouverture à une autre population que la population réputée être le peuple élu. Le verset 2 nous indique la relation qu'il y a entre ce signe et les signes précédents. Hein, les fameux miracles qu'il opérait, ce sont donc justement ces séméias. J'insiste bien sur le fait que c'est séméia, ou séméion au singulier, dans le texte grec, pour qu'on, là aussi, on n'ait pas tout de suite une idée d'un récit fantastique. Enfin, au sens d'anticipation, enfin, qui défie les lois de la nature, etc. Ensuite, les versets 3 à 4, Jésus monte sur la montagne. Est-ce que ça peut vous faire penser à quelque chose, le fait que Jésus monte sur la montagne? Donc, on pense à Moïse, effectivement, qui monte sur le Sinaï ou sur l'Horeb, selon la tradition. Il y a aussi un autre lien intertextuel qui est moins connu, je vous le livre sans plus attendre, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 25, le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. C'est le repas eschatologique. Il y a dans cette allusion à Jésus qui monte sur la montagne, probablement une reprise de ce que Ésaïe exprime ici. Et vous voyez, chez Ésaïe, il y a bien une ouverture à la multitude. L'Éternel des armées, Yahvé Tsebaoth, prépare à tous les peuples, festin eschatologique, ce qui prolonge la vision d'Ésaïe au début du livre, avec toutes les nations qui affluent vers la maison, vers la montagne de l'Éternel.
La montagne a quand même un sens tout à fait particulier.
Oui.
Tout au travers de la vie. Dans le Testament, ici aussi.
C'est le lieu privilégié pour le face-à-face avec Dieu. À la fois avec Moïse, à la fois avec Élie, le Carmel. Et puis, on se souvient que lorsque Jésus délivre le début de sa prédication selon l'évangile de Matthieu, c'est sur une colline, le fameux mont des Béatitudes, qui est de l'autre côté de la mer de Galilée d'ailleurs. Et il est dans une situation un peu semblable à Moïse et l'Éternel, puisque Jésus, dans le sermon sur la montagne, tient lieu de Dieu, et les disciples tiennent lieu de Moïse, qui reçoivent les paroles de Jésus. Donc la montagne est réputée pour être le lieu de la révélation. Le temple de Jérusalem est construit sur un rocher, le fameux rocher sur lequel, selon la tradition, Abraham aurait dû sacrifier Isaac. Donc, l'histoire de la révélation, effectivement, mais aussi là du festin eschatologique. Un festin eschatologique qui est supporté par une deuxième mention, c'est « la Pâque était proche ». Donc, la Pâque, c'est ce repas qui célèbre la sortie d'Égypte, donc la libération. Mais la Pâque, c'est aussi ce qui célèbre l'entrée en terre promise, selon le livre de Josué. Et il y a là, à mon avis, quelque chose d'intéressant. parce que on est hors de la terre promise. Et pourtant, on célèbre la Pâque. On célèbre la Pâque qui est aussi le signe de l'entrée en terre promise. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un signe selon lequel sortir des frontières religieuses, c'est continuer à entrer dans la terre promise? Et il y a une sorte d'éclatement de la topographie du cadastre religieux du livre de Josué. Si certains pensent que la terre promise est réduite à la topographie du livre de Josué, Jésus semble laisser entendre que la topographie de la terre promise excède largement ce cadastre-là. Et on va voir qu'il y a de l'excès dans ce récit, avec l'histoire des pains.
De toute façon, Pâques, ça veut dire passage. Donc ça évoque quand même l'idée d'un mouvement, on va vers quelque chose.
Oui, parce que Pessah, ça désigne a priori l'exterminateur qui passait par-dessus les maisons pour épargner ou non les fils premiers-nés dans les maisons d'Égypte, selon que le sang de l'agneau avait été répandu ou pas sur le linteau de la porte. C'est la deuxième Pâque, et effectivement, un peu plus tôt, au chapitre 2, verset 23, il y avait déjà une Pâque qui avait été célébrée. Donc sur le plan de la narration, l'évangéliste dit juste. Pour une fois qu'il n'y a pas de problème de narration, il faut le relever aussi. Hein. C'est cohérent. L'évangile de Jean est le plus cohérent des évangiles, en fait. Il a vraiment pensé son évangile de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de problèmes, de hiatus sur le plan de la chronologie ou de la narration. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on se rendra compte qu'ils vont s'asseoir sur des prés d'herbe verte, ce qui correspond bien à la saison du printemps. Bien sûr, vous m'arrêtez dès que vous voulez si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Je déroule parce qu'on a beaucoup de versets devant nous. Hein. Verset 5, donc c'est Jésus qui s'inquiète de nourrir la foule, ce qui est un petit peu différent des autres récits relatifs au signe du pain. Et je vous fais circuler une feuille où il y a les différents récits de distribution des pains mis côte à côte. Ça va vous permettre de vérifier que d'habitude, ce n'est pas Jésus qui s'inquiète de la nourriture des personnes, mais c'est plutôt les disciples qui voient leur filet et qui se disent « Mais connaissent ce qu'on mange ?» Et la foule, comment on va faire ? Là, c'est Jésus qui prend les devants. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il y a au total 6 récits de partage des pains. Un seul dans l'évangile de Jean. Donc vous les avez tous sur la feuille qui est en train de circuler. Vous regardez juste les textes mis un peu en synopse sur la première page. La deuxième page, on verra plus tard ce que c'est. Donc en haut, il y a les multiplications des pains selon le titre donné abusivement par les éditeurs. Première multiplication des pains. Et en dessous, la seconde. L'ordre, c'est Marc, Matthieu, Luc et Jean. Je sais que sur les photocopies, le haut est un petit peu gommé, donc c'est Marc, Matthieu, Luc, et puis Jean. Et en dessous, je vous ai mis Matthieu et Marc pour la seconde multiplication des pains. Donc là, premier élément discordant par rapport aux évangiles synoptiques, le fait que Jésus s'inquiète. Personnalisation du dialogue avec Philippe, puis avec André.
Pourquoi Philippe ? Il me semble que c'est un récit qui est...
Oui, je ne sais pas pourquoi Philippe, il est réputé pour, quand Jésus le voit la première fois, il est réputé pour être quelqu'un qui fréquente assez bien les textes de la Torah. Il est réputé donc pour être connaisseur et après tout réputé pour être susceptible d'être croyant, donc d'avoir foi et donc d'avoir de la confiance. Peut-être est-ce là le signe que Jésus est en train de tester ses disciples. Au fond, il va leur poser cette question pour voir comment ils réagissent et quelle est la confiance qu'ils ont par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre ensemble. Peut-être. Les versets 8 et 9, c'est André qui va signaler l'existence de 5 pains et de 2 poissons qui sont en possession d'un païdarion. Un païdarion, c'est un gamin. C'est intéressant parce que la vérité sortira de la bouche de l'adulte, mais l'alimentation va sortir de la besace du gamin. Et ce terme peut être utile pour faire un lien textuel. Donc là, comme c'est en grec, on va suivre la Septante. Et la Septante, elle nous envoie dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, verset 41. Je vous donne la référence à titre indicatif. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 41. C'est le serviteur d'Élisée. Voilà, Élisée qui avait déjà nourri 100 personnes avec 20 pains, ce qui constitue quelque chose qui n'est pas exceptionnel en soi, sauf qu'un quart de pain, ça ne nourrit pas tout à fait son homme, mais il y avait des restes. Et on a un lien avec quelque chose qui est exactement le même geste, et qui, là, va être amplifié. Mais c'est une manière de constater que Jésus n'innove pas complètement. Jésus s'inscrit dans la tradition de ses prophètes qui viennent nourrir un peuple affamé, un peuple qui est en besoin de quelque chose. L'allusion, à mon avis, est incontournable parce que païdarion, c'est un apax dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est le seul endroit du Nouveau Testament où ce terme est employé. Donc s'il est employé uniquement ici, c'est à mon avis à dessein, pour renvoyer à ce texte dont Christiane vient de nous faire un excellent résumé. Il y a autre chose aussi qui est significatif, c'est que l'évangile de Jean est le seul à mentionner que les 5 pains disponibles sont des pains d'orge, précisément comme au temps d'Élisée. Comme je vous ai mis les autres textes, vous pouvez vérifier, les autres disent « nous avons 5 pains et 2 poissons ». Il ne précise pas que ce sont des pains d'orge. Donc, là, on peut considérer que le lien intertextuel est fiable. C'est vraiment délibérément la volonté du rédacteur de nous envoyer du côté d'Élisée. Quel est l'intérêt de nous envoyer du côté d'Élisée? C'est à la fois d'inscrire la geste de Jésus dans une tradition qui le précède, et deuxièmement, d'ouvrir notre intelligence de la situation. À la fois pour fortifier notre foi, on pourrait se dire si une résolution de problème répétée continue à résoudre le problème, c'est que cette solution est fiable. Donc ça augmente notre confiance. Vous voyez, ça lui donne du poids, du crédit. L'autre chose, c'est que ça nous ouvre à une autre expérience parce qu'après tout, la situation n'est pas exactement la même. Au temps d'Élisée, il ne s'agissait pas de nourrir des disciples qui étaient en train d'écouter tranquillement la parole du maître. Donc, cette façon de nourrir une grande assemblée peut être valable dans différentes circonstances. Après tout, moi aujourd'hui, je ne suis même pas venu avec 5 pains et 2 poissons. J'espère que vous n'aurez pas trop faim en partant. André va poser le même type de question que le serviteur, c'est-à-dire la quantité de nourriture par rapport à la foule. Donc vous voyez, il y a la même angoisse. Et il va y avoir le même dénouement. Le verset 10, c'est ce que je vous disais, le fait de faire s'allonger les gens sur l'herbe verte, c'est le signe qu'on en est bien au printemps. Vous voyez, c'est un peu différent de l'évangéliste Luc, par exemple, qui nous propose de voir des bergers avec leurs petits troupeaux en plein mois de décembre. Ah, on sent que ça marche moins bien Noël en décembre. Là, Pâques au printemps, Noël au tison. Le fait que Jésus fasse allonger les gens sur l'herbe verte, ça fait référence à quoi, selon vous? Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est une allusion au psaume 23. Psaume 23 qui va être utile aussi parce qu'à un moment donné, je crois que la nuit va tomber. Et il va y avoir une sorte de vallée sombre, obscure à traverser. Il va falloir franchir. Et on va se rendre compte qu'on franchit. Et on va se rendre compte que la coupe déborde. Ce n'est pas tout à fait une coupe, ça va être des paniers, mais ça va franchement déborder. Sur le plan allusif, vous voyez, on est en train de mettre en place un réseau de citations qui élargissent notre compréhension de la vie et qui renforcent notre foi. En fait, ça nous donne des points d'appui. On va bientôt aller sur la mer de Galilée. Et la question, ça va être, est-ce qu'on peut rester à la surface ou est-ce qu'on va couler inexorablement ? Quand on est dans une situation de passer une zone marécageuse, la bonne solution, c'est d'élargir l'assise, enfin d'élargir nos points d'appui. Hein, c'est un peu comme quand on fait du ski. Quand on est sur des skis, on s'enfonce moins dans la neige que quand on est sur des spatules, des raquettes ou autre. Et bien là, en élargissant le réseau de textes, on élargit nos points d'appui, ce qui nous permet de nous maintenir à la surface de la vie. Ce n'est pas que poétique, ce que je vous dis. Donc, ils mangèrent et ils en eurent de reste. Ben, c'est exactement ce que disait Christiane. Ça fait référence à l'épisode d'Élisée, deuxième livre des Rois, chapitre 4. Et là, c'est les versets 42 à 44.
Il y a que
Matthieu
qui parle
des. Et c'est toujours un enfant qui a la solution, en fait. Sans compter les femmes et les enfants, oui. D'ailleurs, il y a dans les dénombrements du peuple qui sort d'Égypte aussi des différences sur la façon de compter, parce que soit on compte uniquement les hommes en âge de se battre, soit on compte l'ensemble de la population, ce qui fait des chiffres qui diffèrent singulièrement. 5 pains et 2 poissons, pourquoi ? Pourquoi 5 pains et 2 poissons ? 5 pains d'orge, l'orge, on voit pourquoi, mais 5 pains et 2 poissons... Est-ce que c'est parce qu'il y avait effectivement 5 pains et 2 poissons ce jour-là ? Ou c'est pour d'autres raisons ?
Ça fait 7 en tout.
Alors ça fait 7 en tout. Ça fait 7 aussi ? 7 pour tout le monde ?
C'est 7 pains.
Oui, mais ça c'est dans le deuxième récit. A priori, dans les évangiles synoptiques, on comprend que cet événement a eu lieu une autre fois. La première fois, il y avait 5 pains et 2 poissons. La deuxième fois, il y avait 7 pains. Dans les deux cas, ça fait bien 7, 5 plus 2. Et dans la première séquence, c'est quand même 5 de quelque chose plus 2 d'autre chose. Mais ça reste de la nourriture, donc c'est de même nature, mais de degrés différents. Je force un peu sur les catégories. 5 pains, 2 poissons. 5, 2. Alors, traditionnellement, l'interprétation qui est faite de ces chiffres, c'est que ce sont les 5 livres de la Torah et les 2 tables de la loi. C'est la parole qui est offerte. La parole au sens du logos. C'est le logos qui va être distribué. 5 pains et 2 poissons. Considérer la Torah comme du pain, c'est franchement normal. Après tout, n'oublions pas que le logos est né dans la maison du pain, Bethléem. Bethléem, c'est la boulangerie, maison du pain. Et c'est là que le logos naît, selon les autres évangélistes. Et donc, ce n'est pas trop forcé, je pense, que de considérer qu'il y a là une figure de l'enseignement oral, mais pas simplement du verbiage, pas simplement du prêchi-prêcha, mais de la parole qui fait vraiment autorité et qui est offerte pour une vraie nourriture intérieure. Au verset 11, on voit un peu comment les choses se passent. Et ça se passe de façon aussi simple qu'à Cana, finalement. Vous voyez, il n'y a pas de processus extraordinaire, il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y a pas de formule un peu magique, abracadabra ou amracamra, pas de geste un peu étrange. Dans la simplicité, le partage du pain va se faire. Ce qu'il y a de significatif ici, c'est qu'il y a une action de grâce, il rend grâce, ce qui donne le mot Eucharistie, qui pour le lecteur chrétien n'est pas sans faire référence précisément à l'Eucharistie et donc à la scène. Mais ici, il ne rompt pas le pain. Il rend grâce, mais il ne le rompt pas.
Il y a une notion de plénitude aussi. Comme l'autre jour, on parlait du verbe remplir.
Oui.
On retrouve ici autant qu'ils en voulurent.
Oui.
Oui. Dans un pays où les céréales et la viande, enfin, et les protéines sont assez rares.
Il y a effectivement une abondance, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de creux. En fait, il y a même une surabondance puisqu'il y a du reste. Ce que l'on peut dire avant de parler de ce reste, c'est que le prodige, en fait, est juste attesté par le fait qu'il y a du surplus. Personne ne manifeste d'étonnement. Personne ne dit c'est quand même spectaculaire ce qui vient de se passer, ça défie la loi de l'entendement ou les lois de la physique, ou les lois de l'art culinaire. Et les poissons, eux, ne sont plus mentionnés. Et donc là, Jésus rajoute un ordre direct qui est propre à Jean, rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne soit perdu.
Moi, ça me fait penser, enfin, je fais une extrapolation.
Très bien.
Par rapport à l'Église, catholique. À partir de là, et jusqu'à la fin du texte, hein, des 69 versets, on a plein de références à l'Eucharistie catholique. Par exemple, ramasser les morceaux. Le prêtre, quand il a élevé son calice, là, sa
coupe,
il ramasse, il nettoie la coupe, il ramasse s'il y a des miettes, enfin, on voit, ça, c'est une signification que je rattache à ça.
Bien sûr.
Ramasser, ça a un sens, ça a été retenu par l'Église catholique. Alors, ramasser les morceaux, ça me renvoie un petit peu à la manne dans le désert.
Oui.
Mais on passe au
lorsqu'il sacré. Peut rassasier. La manne dans le désert, si je me souviens bien du récit, Moïse avait dit, ne prenez que ce qu'il vous faut. Que ce qu'il vous faut. Donc, il se trouve que les Hébreux ont pris plus qu'il leur fallait et tout ça, ça a été...
Ça a péri.
Ça a péri. Donc là, il y a une signification, ramasser les morceaux, ça renvoie pour moi un petit peu à la manne du désert. Je pense que pour les participants à cette distribution, ça avait un sens aussi. Pas gâcher, pas prendre plus qu'il ne fallait, et ce qu'il y avait en plus, on met de côté.
Oui. Donc c'est l'attitude contraire par rapport à la manne du désert. Dans la manne du désert, on prenait et on laissait, et là, on prend et on garde. Parce que, on va le voir dans la fin de ce passage, c'est que précisément, ce pain-là n'est pas périssable. C'est, si on suit la métaphore que je vous propose, c'est qu'il ne faut pas faire de coupe sombre dans les textes bibliques. C'est-à-dire, ne prenez pas simplement ce qui vous a nourri un jour, gardez l'ensemble du canon biblique. Ne mettez pas de côté des choses qui vous semblent anecdotiques, accessoires. Tout est bon, en quelque sorte, dans la Bible. Rassemblez les textes, ne laissez pas les épîtres, ne laissez pas l'épître de Jacques de côté, au prétexte que ça serait en plus. Ne laissez pas les épîtres de Pierre, au prétexte que vous n'êtes pas très pétrinien. L'évangile de Marc était plutôt pour Rome, alors que vous êtes franchement de la communauté de Jérusalem, gardez quand même ça dans votre canon. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de symboliser, de rassembler ensemble. Oui, les épîtres de Pierre ont été écrites beaucoup plus tôt. C'est un des derniers textes du Nouveau Testament, l'évangile de Jean. 190, entre 90 et 110. Les épîtres de Paul ont été écrites dans les années 60. Les évangiles dans les années 70-80. L'Apocalypse sera écrite dans la foulée. Épître de Pierre, épître de Jacques, ça a été écrit il y a un petit bout de temps déjà. Jean vient en quelque sorte nouer la gerbe. Sur le plan historique, alors peut-être que je force un peu trop l'allusion ici pour dire ne chassez pas ces sources-là, mais au contraire, organisons la pluralité au sein de nos textes de référence, mais c'est plausible quand même. Sur le plan historique, en tous les cas, c'est plausible. De même qu'il est plus plausible, mais il faut bien que je taquine un petit peu, de dire que ici l'évangile de Jean fait moins référence à l'Eucharistie catholique que l'Eucharistie catholique ne fait référence à l'évangile de Jean, en fait. Non, mais c'était pour ma défense. Oui.
Il y a peut-être un passage au sacré. C'est pour ça qu'on ramasse. Ce n'est pas pour gâcher le...
Oui, il faudra s'entendre sur le lieu du sacré, mais en tous les cas, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas jeter parce qu'on peut encore en faire usage. Parce que ça peut nous apporter du sacré. Je ne pense pas qu'il y ait ici une sacralisation de la matière peinte. Mais en revanche, il y a le fait qu'on considère que cela nous met en relation avec du sacré. Jean est le seul à dire que la foule est subjuguée par ce qui vient de se passer. Pour les autres, c'est assez normal. Mais au verset 14, ces gens, ayant vu le signe que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et ça fait une sorte de conclusion au début. On avait la montagne, et bien là, on a une référence à nouveau à Moïse. Je vous renvoie au livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 15, il y a l'annonce d'un nouveau Moïse au temps dernier. Moïse qui, effectivement, lui aussi aura nourri de façon un peu significative, miraculeuse, au temps du désert. Verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira. Vous voyez, Jésus qui fuit un peu la situation, qui trouve que cet engouement est assez suspect et un peu trop cousu de fil blanc, finalement. Mais, oui.
Le peuple, à ce moment-là, le peuple voyait en Jésus un prophète, et le prophète qui peut venir, et Jésus ne reste pas...
Il leur échappe.
Ne reste pas sur ce notion prophète. Et on parle de roi. Jésus,
sachant qu'il allait le faire roi.
Pour le faire roi. On aurait pu rester dans ce niveau de la prophétie.
Oui.
Et lui se considère un peu comme autre chose.
Non, il a peur.
Comme un prophète, mais comme un roi. Donc on est plus. Enfin,
non, parce que s'il se considérait comme un roi, il aurait accepté l'intronisation. Là, il refuse d'entrer dans le jeu du messianisme politique, en fait du messianisme davidique. Il va plutôt s'orienter vers le messianisme de Joseph, du serviteur souffrant. Là, il refuse l'intronisation.
Oui, mais c'est un peu, non pas en contradiction, mais un peu à l'opposé du verset précédent. Le peuple, les gens qui étaient là ne le considéraient pas comme un roi, mais comme un prophète.
Ah oui, bien sûr, c'est même deux pouvoirs tout à fait distincts. Mais ce que montre l'histoire à l'époque, c'est que pour se sortir de cette situation d'occupation par les Romains, une forte attente messianique était une attente où il y avait une collusion entre le religieux et le politique, et ce sont les zélotes qui sont cette figure de condensation, à la fois une ferveur religieuse et une activité politique extrêmement forte qui se concrétise en fait par la main armée. C'est-à-dire que les zélateurs de la foi, les zélotes, qu'on appelle aussi les sicaires parce qu'ils avaient un grand couteau pour égorger les traîtres, etc., vont faire des coups de main, vont être les terroristes ou les résistants de l'époque, selon de quel côté on se place. Et on le voit avec la figure de l'autre Jésus qui risque d'être exécuté le Vendredi Saint, c'est Jésus Barabbas. C'est tous les deux des Jésus fils du Père. Barabbas, c'est fils du Père en araméen. Et ils ont choisi deux voies singulièrement différentes. Alors évidemment, à court terme, c'est le Jésus Barabbas qui semble l'emporter, puisqu'il est libéré, puisque la foule l'acclame, parce que la foule attend ce genre de Messie. Il s'avère que l'histoire continue après Vendredi Saint. On passe à la deuxième section, la marche sur la mer. Qui peut nous lire les versets 16 à 25 ? 16 à 25.
Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit : C'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu venu ici ?
Voilà. Après, ça sera un autre discours. Bien. Je vous souvenez du psaume 23, je vous ai dit qu'il était utile. Eh bien là, Jean insiste un peu lourdement sur le fait qu'il fait nuit sombre et ténèbres. Le soir est venu et en plus, il ajoute qu'il faisait déjà nuit et que Jésus ne les avait pas encore rejoints. En accentuant ce caractère nocturne de la scène, et le sentiment d'abandon des disciples, on a quelque chose qui est assez proche de ce que l'on a dans le livre de la Genèse, notamment autour de la figure de Jacob, c'est-à-dire des situations où une révélation spécifique va être faite. Et quand Jacob, par exemple, a la vision de l'échelle, c'est en pleine nuit. Et ici, on a une situation nocturne qui est donc propice à une révélation particulière. Par rapport aux autres évangiles qui, eux aussi, ont un récit de Jésus qui marche sur les eaux, il y a encore une simplification du récit. Moins de détails. Chez Matthieu et chez Marc, il y a une lutte des disciples contre les éléments. On est en plus en milieu doublement hostile. Il n'y a pas de vent qui s'apaise quand Jésus monte dans la barque. Il n'y a pas non plus ce cri des disciples qui dit de celui qui s'approche de nous, mais c'est un fantasme, ou un fantôme, selon comment vous traduisez. Pour Jean, il y a deux points qui sont importants. Il y a l'apparition surprise, c'est l'inattendu, et la parole d'apaisement de Jésus. Alors, Au verset 20, il y a dans le grec une petite expression qu'il faut repérer parce qu'elle est importante, le fameux « c'est moi ». En grec, c'est « ego eimi ». Donc c'est « moi, je suis ». C'est moi, c'est une traduction un peu pauvre, parce que « je suis », c'est la manière pour l'Éternel de se présenter à Moïse dans le buisson ardent. Tu diras au peuple « je suis » a dit ceci. Il y a le fameux « ayez Asher, ayez » et donc qui après est traduit, enfin est simplifié pour Moïse en « je suis ». Donc c'est Exode 3, hein, si vous voulez voir. Le récit d'apparition de Jésus. Eh bien, en fait, c'est un récit d'apparition. Et est-ce que vous avez une idée d'un autre endroit où il y a un récit d'apparition ? Alors, il y a la transfiguration qu'on n'a pas chez Jean. Mais effectivement, la transfiguration, il y a de l'apparition, puisqu'il y a les anciens prophètes qui sont présents autour de Jésus. Vous disiez Paul ? Paul sur le chemin de Damas ?
Oui.
Oui ? Par rapport à Jésus, est-ce qu'il y a d'autres récits d'apparition de Jésus ?
Après la résurrection
de Jésus. Oui, à Pâques, en fait.
Il se montre à ses disciples.
Oui, aux femmes, tout d'abord, et puis aux disciples. Et chez Luc, il y a les disciples d'Emmaüs. On va essayer de conserver l'évangile de Jean pour voir s'il y a des interactions. En fait, oui, il y en a. En fait, c'est un récit pascal. C'est un récit de Pâques, de résurrection. C'est un récit qui prépare le lecteur à comprendre ce qui se passe le jour de Pâques.
Thomas aussi touche.
Oui, après, il apparaît aux différents disciples, dont à Thomas qui avait dit « Mais j'aimerais bien voir un peu de quoi il en retourne. » Donc, les disciples commencent par voir Jésus sans le reconnaître. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Marie, qui va discuter avec Jésus ressuscité sans le reconnaître. Et c'est au chapitre 20, verset 14, avec ce verbe théoréo. Donc, à la fois, elle voit, mais elle ne reconnaît pas, jusqu'à ce que l'identification se fasse et qu'elle se jette à ses pieds. Et il y a le même scénario de frayeur et d'apaisement. Donc là, c'est le chapitre 20 de l'évangile de Jean, au chapitre 19. Je vous donne ces références pour vous montrer qu'il y a vraiment une intention de la part de l'auteur. Je vous lis les versets concernés, donc chapitre 20 de Jean. Le chapitre 14, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Bon. Verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il les rassure. Et ils montent dans la barque des disciples le jour de Pâques, en fait. Ils sont seuls dans leur barque et en fait, il a franchi tout ce qu'il y avait à franchir. Il le rejoint et il monte avec eux dans la barque qui sera plus tard la barque de l'Église. Donc, on a les ténèbres. En tout cas, une obscurité sérieuse. On a la peur, pour ne pas dire la terreur. On est parfaitement dans un contexte d'angoisse liée à la mort, qui corrobore le psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Où pour autant, nous ne devrions craindre aucun mal. Sauf que ça ne va pas de soi, de ne craindre aucun mal dans ces circonstances pareilles. Ces textes assument le fait qu'il y a des passages à faire, et qu'il y a donc de la confiance à instiller dans la vie des personnes. Verset 22, etc. Donc la foule, elle était restée de côté. C'est Jésus qui rejoint la foule qu'il avait pourtant fui un peu plus tôt. Donc il y a une sorte de pédagogie du retour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sevrer trop rapidement les personnes. Quand on voit que le sevrage est trop rapide, ben, il faut y retourner. Et on a une transition jusqu'au dialogue qui va s'instaurer entre Jésus et la foule. Et ça nous mène tout de suite au verset 26. Première séquence, versets 26 à 31, où l'œuvre, le travail, le job, ça va être de croire, rien de moins. Est-ce que quelqu'un peut nous lire les versets 26 à 31 qui répondent à la question ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici ? Versets 26 à 31, oui.
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger.
Merci. Bien, donc là, on commence la séquence du dialogue qui va être un sérieux approfondissement sur la question et de la vie éternelle et du pain, etc. Est-ce que par rapport à cette première séquence que nous venons de lire, il y a des choses qui vous frappent ? Oui ?
Au verset 26, ce qui me frappe, c'est que Jésus leur dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles. Donc, les miracles, ça compte pas. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mmh. Or, jusqu'à présent, on a l'impression que les disciples croyaient en Jésus parce qu'ils avaient vu ces miracles, enfin, qu'ils avaient vu des miracles, des choses qu'ils interprétaient comme ça. J'ai dit, non, c'est pas ça qui compte. Mmh. C'est parce que vous avez mangé. Donc, c'est quelque chose de pas passif, mais d'actif.
Absolument. C'est la raison pour laquelle mon hypothèse, hein, c'est que tout au long des textes bibliques, il y a et des miracles et une disqualification des miracles. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des signes, mais en permanence, les rédacteurs disent attention à ces signes parce que ce n'est pas ça qui provoque la foi. Ce n'est pas ça qui les provoque de façon durable. Ça peut étonner, vous voyez, ça permet à Moïse de changer sa route et de se mettre au contact du divin, mais en permanence, les miracles s'oublient. Parce que, comme tu le dis très bien, ça ne nous rend pas actifs, ça nous rend juste spectateurs. Et quand on apprend quelque chose de façon passive, en fait, on l'oublie. La vraie façon d'apprendre quelque chose et de l'apprendre durablement, c'est de l'enseigner à quelqu'un. C'est de pouvoir le restituer. C'est de pouvoir le digérer, en fait. Et on ne digère que ce que l'on mange. Ce que l'on voit peut éventuellement provoquer une petite persistance rétinienne, mais à un moment donné, quelque chose d'autre vient prendre la place. Et c'était vrai quand il y avait eu le miracle, par exemple, dans le concours entre Élie et les prophètes de Baal. Il y a une sorte d'ordalie à celui qui arrivera à allumer un feu sans mettre d'allumette. C'est Élie qui gagne, du coup, tchung, il fait zigouiller 300 prophètes de Baal. Et le verset suivant, eh bien en fait, il est pourchassé parce que le peuple se retourne contre lui et le miracle n'a pas suffi à convertir les gens. Les miracles, ce n'est pas ce qui va manquer là, tout au long des évangiles. Et pourtant, il n'y aura pas grand monde le matin de Pâques pour aller vérifier que Jésus est bien ressuscité comme il l'avait annoncé. En revanche, le pain qu'ils ont mangé, c'est-à-dire les paroles qu'ils ont reçues, qu'ils ont mâchouillées et digérées, sont des paroles qui vont pouvoir leur ouvrir les yeux sur la réalité qu'ils ont vécue après Pâques. Une sorte de travail de réminiscence qui va leur permettre de rejoindre les éléments qui les ont structurés, mais surtout qui ont structuré le parcours de Jésus. C'est-à-dire que rétrospectivement, ils vont comprendre. Ils vont s'apercevoir, parce qu'ils auront en mémoire les paroles que Jésus avait dites, qui vont pouvoir être autant d'étapes qui vont leur permettre de faire le chemin. On faisait référence aux disciples d'Emmaüs. Eh bien, en fait, le chemin que leur fait faire Jésus, c'est de retraverser les Écritures pour comprendre que ce qui s'est passé n'est pas chaotique, mais correspond à une promesse qui vient de s'accomplir, en fait. Et donc, ils peuvent se réjouir. Et ils peuvent sortir de leur deuil. Les disciples vont pouvoir surmonter le choc de la croix, vont pouvoir sortir du chaos du Vendredi Saint, parce qu'ils auront en eux les éléments nécessaires pour rebâtir un puzzle où il y a un paysage vivable. Vous avez une remarque aussi, je crois, sur ce passage ?
Non, je voyais quand même un peu un paradoxe entre le verset 2 et celui dont on parle, parce que la foule suivait Jésus parce qu'elle attendait les miracles, elle avait vu des miracles, et puis elle avait pensé que Jésus allait en opérer certainement d'autres. Et lorsqu'on entre dans le texte, on ne voit pas clairement que toute cette foule-là est venue pour manger. Voilà. Mmh. C'est ce qui me choque un peu dans le... Mmh. Alors après, on retourne sur la nourriture purement terrestre, en l'assimilant alors par un certain équilibre de la pensée à la nourriture spirituelle, mais en tout état de cause, ça ne s'intègre pas dans la logique du verset 2. Voilà la réflexion que je peux faire. Je me trompe peut-être.
Non, tout à fait. Il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a la logique du verset 2 qui est corroborée par le verset 30. Le verset 30, c'est « Mais quel miracle fais-tu » Entre-temps, il a quand même nourri une foule un peu sérieuse avec 3 fois rien. Enfin, 7 fois rien. Mais ça n'a pas suffi. Ils viennent de sortir d'un miracle, ils en veulent un autre. Ils en veulent d'autres. Quel miracle fais-tu, au pluriel. C'est-à-dire que c'est une soif inextinguible. Une soif inextinguible. On aura des affamés permanents. Parce que le miracle, précisément, c'est un spectacle. Le spectacle, c'est produire une image. Et en fait, ça produit une image qui renvoie à notre narcissisme. C'est-à-dire que la contemplation de cette image, c'est la contemplation de l'image que l'on aime. Donc c'est en fait l'image de soi que l'on aime. Et le narcissisme, c'est un puits sans fond, en fait. Si on veut nourrir cela, eh bien, on se laisse dévorer tout cru. Ce que Jésus va faire, d'ailleurs, il va se laisser dévorer, mais autrement. Il va faire un petit décalage. Donc, on a effectivement deux logiques qui s'affrontent. La logique du « on veut du miracle » jusqu'à plus soif. Et puis, la logique du « ce qui va vraiment vous rassasier, c'est autre chose ». Souvenez-vous qu'il y avait déjà ce genre de malentendu ou de décalage. Souvenez-vous, c'est un bien grand mot. Chapitre 4 de l'Évangile de Jean, c'est avec la Samaritaine. Une sorte de malentendu parce qu'on ne parle pas de la même eau. Mais il n'y a pas de malentendu parce que, en fait, la question c'est comment on fait pour combler le véritable manque au niveau de la vie, hein, la vraie soif de vivre. Et donc, après, la Samaritaine et Jésus s'entendent. Mais au début, on ne semble pas parler la même chose, on ne semble pas vouloir combler les mêmes besoins. Et puis bon, le dialogue va faire que ça va s'arranger.
Je trouve que c'est important ce que vous avez dit là. C'est vrai que verset 2. En fait, la foule était là, elle avait une attente spirituelle, mais c'était une attente messianique, d'ailleurs, on s'est dit un peu plus tard, mais pour elle, c'était lié à des miracles. Mais toute la foule ressentait la même chose, recherchait la même chose. Et Jésus leur dit, non, vous vous trompez. L'attente est terrible, l'attente de ça, c'est pas lié à des miracles, c'est lié à quelque chose de totalement différent. Et le pain de vie, etc. On marche, qui nous amène à faire un propre travail, une propre réflexion. Ça se marche.
C'est ça. Il faut être acteur dans cette situation-là, oui.
Et effectivement, ce texte, tout ce texte peut se comprendre. Il faut se mettre dans la peau de la foule. Ils attendaient le Messie. Et puis ils sont là.
Jésus, on dit, tiens, si c'était celui-là, c'est pourquoi est-ce que ça serait celui-là? Parce qu'il a fait des miracles. Hein,
c'est très humain.
Oui, c'est très humain et donc très utile, mais c'est vrai qu'il y a du coup, à un moment donné, il faut qu'il y ait une rencontre. Pour l'instant, la rencontre n'a pas encore lieu. Et en plus, ils vont l'interroger comme on interroge un rabbi pour savoir ce qu'il faut faire, et il va leur faire une réponse un peu curieuse, hein, puisque le verset 29, c'est au lieu de faire tout ce qui est prescrit dans la loi, au lieu de suivre les commandements, il leur dit ce qu'il faut faire, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Ben en fait, c'est assez original cette affaire. Parce que dans les autres évangiles, on a eh bien, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après tout, résumons la loi à cela. Mais là, l'œuvre, c'est la foi. La foi devient une œuvre, devient l'œuvre en fait. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de confiance. Donc on répond de façon assez étrange par rapport à l'habitude. Et effectivement, la foi, c'est un acte, hein, c'est pas quelque chose de passif, c'est pas, on n'est pas un vase qui serait rempli, c'est le fait d'aller vers. Il faut prendre le pain et le manger, il faut accueillir Dieu, pour le dire autrement. Croire en, c'est un mouvement qui va vers. Croire en, c'est se lier à. C'est pas simplement une posture intellectuelle. D'ailleurs, on va le voir par la suite, c'est carrément pas une posture intellectuelle. Et au verset 30 à 31, au fond, il s'agit de se positionner par rapport à Moïse. Il y a effectivement la demande d'authentifier la mission. Est-ce qu'il est le prophète de la fin des temps ou pas finalement? Est-ce que c'est bien celui que le Deutéronome annonce? Il y a une combinaison entre les versets 4 et 14 du chapitre 16 de l'Exode. Exode 16, c'est l'histoire de la manne, avec le pain qui descend du ciel comme la pluie, au verset 4. Et le pain que l'Éternel donne à manger au verset 15. Il y a une combinaison des deux, donc on est bien en plein contexte de la manne. Donc là, la référence est tout à fait explicite.
Donc il est explicitement dit que, Jésus l'a dit, que la manne n'était pas le pain du ciel. Ça avait beau tomber du ciel.
C'est exactement ça. Il va essayer de désigner ce qui est le vrai pain du ciel dans la suite. Quelqu'un nous lit les versets 32 à 40 ? Oui, Chassine, volontiers.
Jésus leur dit, non, c'est 38, 32.
Oui, c'est ça, oui.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Mm-hmm. Oui, très bien, merci. Voilà, ça corrobore tout à fait ce que nous disait Françoise sur le fait que Jésus s'oppose catégoriquement à ce que le peuple a en tête en réinterprétant l'histoire d'Israël. Ici, ce qu'il fait, c'est de refuser de mettre Moïse au centre de l'histoire. Le véritable acteur, c'est Dieu le Père. Et vous voyez, il y a une vraie réforme théologique là qui s'opère. Réforme, non pas par rapport au texte biblique, mais réforme par rapport à l'ambiance religieuse de l'époque. En plus, comme le disait François, Jésus dévalorise le don passé de la manne en lui contestant sa qualité de pain venu du ciel, parce que, précisément, c'est un aliment qui se perd. Et comment quelque chose qui vient du ciel pourrait-il se perdre? Comment pourrait-il pourrir? Comment pourrait-il être conditionné au temps qui passe? Aujourd'hui, c'est le pain de Dieu qui descend du ciel. Je vous renvoie un peu plus tôt à l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13, on a déjà cela. C'est le mystère du Fils de l'homme. Et comme je vous l'avais annoncé, ici, on a un coup de butoir supplémentaire, je pense, par rapport à la question de la délimitation du peuple. La manne était destinée à la survie d'Israël dans le désert. Ici, le pain du ciel est pour le monde entier. C'est noir sur blanc. Pardon ? Pas seulement pour une catégorie de la population humaine. Pour le monde entier, sans exclusive. On fait tomber toutes les frontières. C'est le libre-échange. Plus de frontières douanières, etc. Plus de taxes. Libéralisme absolu. Bien. Verset 34, du coup, ils disent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain ». Eh bien, c'est exactement ce que la Samaritaine disait. Hein, au chapitre 4, verset 15. « Donne-moi toujours de cette eau, alors ». Là, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation.
Tout à fait.
Mais ça montre, cette question du peuple, montre que sont surpris de quelque chose, mais ils n'ont pas encore vraiment compris, j'ai l'impression.
Non, il y a encore un petit malentendu sur la nature du pain. À la fois, ils ont conscience que, bon, ce qu'ils ont là sous les yeux, c'est vraiment ce qu'il leur faut, mais ils ne savent pas encore très bien ce qu'ils ont sous les yeux. Il y a un malentendu sur ce qui va être offert. Ils savent qu'il y a un kairos, un moment, enfin, c'est là, on est... Il y a la situation. Maintenant, ils ne savent pas trop... Quel saint se vouait encore?
On comprend d'ailleurs que la foule s'étonne un peu et a du mal à s'assimiler ce nouvel enseignement considérable que Jésus leur apporte in fine après
ouais.
Le repas.
Et ça va encore s'aggraver.
Et ça s'aggrave.
Ça va s'aggraver dans les versets qui vont suivre. Mais là déjà, en se présentant comme le pain de vie, il franchit quand même une étape. Ça c'est inédit. Se présenter au verset 35 comme le pain de vie, ça veut dire croire en la personne de Jésus qui est la condition nécessaire pour avoir accès à la vie éternelle, c'est quelque chose d'inédit. Et le verset 36 dit, vous avez vu et vous ne croyez pas, c'est un peu l'inverse de Thomas. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu, c'est déjà ici. Parce que précisément, le pain du ciel, il n'est pas visible, en fait, il n'est même pas vraiment physique. Il est d'une autre nature.
Ce verset 38,
oui.
Qui disait que le pain de vie, c'est une première étape.
Hmm.
Alors, le verset 36.
Oh oui.
Alors là, c'est une autre étape encore plus difficile ou impossible à croire, ou je ne sais pas, surprenant pour le peuple, car Jésus dit « Je suis descendu du ciel
». Il l'avait déjà dit, en fait, ça. C'est aussi le prologue, hein, c'est avec toute l'incarnation du Logos. Mais ça va s'aggraver après par rapport à une infraction du Lévitique, en fait. Parce que quand il avait eu cet entretien avec Nicodème, il y avait déjà l'idée qu'il fallait naître d'en haut. Bon, je vous fais peut-être tourner la page. Vous avez une page comme ça, de l'autre côté, il y a une page comme ça.
Mais,
oui.
Oui. C'est quand même une annonce, enfin, je ne sais pas si toi tu pouvais comprendre à ce moment-là, mais que Jésus il se présentait comme fils de Dieu, enfin, comme Dieu, presque. Ça peut être un envoyé de Dieu. C'était quelque chose, je trouve.
C'était pas facile.
À mon avis.
Statut
les gens de l'époque, oui, ça fait bien.
Oui, oui, c'est tout à fait inédit, parce que les messies ont tendance à faire la moitié du chemin. C'est-à-dire que Jésus fait déjà un premier décalage en attirant sur lui la foi. Hein, quand je vous disais qu'il devient le passage nécessaire, c'est qu'en fait, il réoriente le regard des croyants sur lui, et ensuite... Il va faire lui-même un décalage pour que le regard des croyants ne soit plus sur lui, mais sur le Père. Mais pour les croyants historiques qu'il a sous les yeux, il est obligé de récupérer le regard, de canaliser leur attention sur lui, et ensuite il va faire le décalage nécessaire. Il va s'effacer. Il est heureux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai l'Esprit Consolateur. C'est même nécessaire. Il faut que je m'efface. Comme Jean-Baptiste s'était effacé pour laisser passer Jésus, en fait. Il faut que je m'abaisse pour que lui grandisse. Et après, ça sera pareil pour Jésus. Il va falloir qu'il se retire pour que nous soyons connectés au Père comme il l'entendait. Sur cette feuille, il y a un trait. Et en dessous du trait, il y a les petits versets là, qu'on vient de voir. C'est juste, on ne les regarde pas plus, vous les verrez chez vous. C'est pour vous montrer ce qu'est une structure en chiasme, une structure concentrique. Je vous ai souligné les mots-clés qui se répètent en haut et en bas. C'est-à-dire que le verset 36 et le verset 40 se répondent. Le verset 37 et la fin du verset 39 se répondent. Les versets 38 et 39 se répondent. C'est une structure en chiasme. Et on verra qu'il y en a une plus large que je vous ai mise dessus. Mais les structures en chiasme ne font que porter, elles n'apportent pas de sens particulier. Sauf pour la grande, je vous dirai. On passe au verset 41 à 51. Quelqu'un pourrait aller lire ?
Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là, Jésus ? Le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel ? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le père ne m'a envoyé, qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Mmh.
Donc là, on continue à déployer cette image, coup après coup. Donc, il y a le murmure des Juifs qui va relancer le dialogue. Est-ce que ce murmure des Juifs, tel qu'il est dit dans l'Évangile de Jean, vous fait penser à un autre murmure ?
C'est le discours des pharisiens qui ont toujours contesté l'approche messianique.
Oui, mais le murmure. Murmure. Oui. Et le peuple murmure notamment contre Moïse. C'est Exode, chapitre 16, verset 2. Et en fait, Jésus est confronté au même type de murmure. Et le murmure, c'est, vous savez, c'est à la fois la contestation de l'autorité de Moïse, mais c'est aussi, on était bien près des marmites pleines d'Égypte. Bon. Toujours est-il que là, il y a un murmure qui s'organise. Et quel est le motif de la contestation ?
Mais il n'est pas descendu du ciel, puisqu'on connaît son père et sa mère.
Et là, ça ne fait pas de problème. Hein. On connaît ses parents, fils de Joseph, vous voyez, il n'y a pas de gros problème sur les origines de Jésus. Ce n'est pas là que se situe le problème. Le problème, c'est justement dans sa paternité divine, en quelque sorte, que ça poserait problème. C'est là où est l'enjeu. Comment est-ce qu'il pourrait être fils du Très-Haut, qui est une façon de dire le divin, Alion, qui est au-dessus de nous, et alors qu'on connaît son père et sa mère, et qu'en plus il est de Galilée, qui n'est pas la province la plus extraordinaire qui soit de ce coin-là. C'est comme si... Enfin, non, on ne va pas faire d'analogie, mais voilà.
Ça m'a été décidé qu'au Conseil des Fèzes, au Concile d'Éphèse, en 431.
Qu'est-ce qui a été décidé au Concile d'Éphèse?
Oui, on a discuté et établi la divinité et l'humanité de Jésus.
Ah, la divino-humanité de Jésus. Oui. Disons que là, ça a été écrit dans le marbre du Concile. Mais la question se posait dès le départ. Qui est celui qui nous parle? Oui, oui, mais ça le demeure encore.
Il y a deux choses. Il y a ceux qui disent, mais attendez, on connaît, c'est le fils du charpentier.
Oui.
Comment ça? Et puis, il y a ceux qui disent, mais comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Donc le fait de dire qu'il était descendu du ciel, pour un certain nombre, peut-être ceux qui étaient plus docteurs de la loi, disons, qui connaissaient, ça commençait à devenir un blasphème.
On peut même
qui affirmait je suis descendu du ciel.
On peut même penser que pour certains, justement ceux qui étaient très attachés au miracle et au voir, au sensible, pouvaient même se dire descendu du ciel, ils le prenaient au sens strict du terme. C'est comme un être surnaturel qui descend. Après tout, il pourrait bien remonter après d'ailleurs. Mais il y a peut-être cette idée qu'ils imaginent effectivement quelque chose qui sort de l'ordinaire au point où les récits mythologiques se concrétisent, tels quels, bruts de décoffrage. Et pour certains, on peut même imaginer, par exemple, quand Jésus sera attrapé pour être arrêté et condamné, qu'effectivement, on se dise, mais s'il était vraiment le Messie, les anges viendraient le défendre, des armées d'anges. C'est-à-dire qu'il se pourrait que certains soient sur un concept religieux très féerique, quand même. Et à côté de cela, les docteurs de la loi, qui, eux, récusent que cet homme de cette condition-là puisse être porteur du divin. Pas digne.
Tout le monde, à cette époque-là, attendait le Messie. Mais c'est sur la sur cette venue du Messie, sur cette forme, sur la forme de cette venue, la façon dont il viendrait, que tout le monde était divisé.
Et puis sur quoi le Messie pourrait intervenir? Ouais. Parce que certains voudraient par exemple que le Messie devienne roi pour instaurer un autre ordre politique.
Ouais. S'il vous plaît.
Oui.
Moi je suis effrayée un peu de voir l'accélération là. Parce que je pense qu'on arrive à la Pâque et Jésus...
C'est même la deuxième Pâque d'ailleurs. Pardon. C'est même d'ailleurs la deuxième Pâque. On est en plein registre de Pâques, non. Ce qui
alors,
fait penser...
Jésus, on a l'impression qu'il accélère son message pour aller tellement loin que il va être crucifié. Enfin, il sait bien qu'il va vers la mort. Alors. Et je trouve qu'il y a une accélération folle parce que jusqu'à présent, il n'a jamais dit « Je suis moi le pain de vie ». Oui, je trouve que c'est très important là. Il veut transmettre au plus vite son message parce qu'il sent que sa fin est proche.
Je ne sais pas s'il sent que sa fin est proche, mais en tous les cas, il ne veut pas différer inutilement. Et effectivement, le fait d'utiliser le verbe manger, voilà. Parce que c'est pas simplement se présenter comme le pain de vie, mais en plus qu'il faut manger ce pain de vie.
Voilà.
On en est au registre du cannibalisme, là, pour le dire avec Jean-Jacques Rousseau. Ça, c'est à la fois inédit, mais effectivement, c'est une étape de plus de franchi. En tout cas, il ne perd pas son temps.
C'est vrai que je ressens ce que vous dites, là. Il y a une accélération dans cette année. On est dans une phase où les choses s'enclenchent vite.
Et il y a des disciples qui s'en vont, d'ailleurs.
Et ça va en choquer certains qui ne peuvent pas accepter cela. Et il va continuer sur cette lancée-là. Au verset 51, il y a à la fois une lourde insistance sur le verbe « manger » qui va provoquer l'incompréhension. Et puis, il y a Il y a un troisième ego eimi qui va permettre à Jésus de s'affirmer lui-même donc sous le symbole du pain, hein, au verset 51. « Je suis », c'est « ego eimi » en fait, hein, encore. Et Jésus dit qu'il va donner sa chair, sarx, pour faire vivre le monde. Vous voyez, ces textes qui sont usés, ça ne nous émeut pas plus que ça, mais c'est époustouflant, en fait. Hein.
On revient à ce qu'on disait au début, là, par rapport à l'Eucharistie.
Oui.
Voilà, il faut manger.
Mais le 63 change un peu les
choses.
Et là, on est tout à fait dans la perspective de Luc, quand il fait le récit de la scène. Hein. Luc, chapitre 22... Verset 19, on est dans ces catégories-là, en fait. Et là, Jésus le fait pour tout le monde, et pas simplement pour le cercle des disciples. Et on va voir qu'après, ça va s'aggraver avec la question du sang. Mais tout cela était déjà annoncé dans le prologue, hein, au verset 14 du chapitre 1. On avait déjà Jésus qui va se donner lui-même entier en tant que parole faite chair. Quelqu'un pourrait nous lire les versets 52 à 59 ?
Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum.
Merci. Donc Capernaum, c'est au nord du lac de Galilée. Hein. On voit encore cette synagogue, d'ailleurs, ce qu'il en reste quand on va dans ce coin-là. Bon, ben voilà, on a franchi une étape de plus, hein, après le corps, le sang. Et alors là, c'est le summum, en fait. Hein. On ne se rend pas bien compte. Mais dans les catégories du judaïsme de l'époque, on atteint le summum de l'invraisemblable. Lisez le Lévitique, chapitre 17, versets 10 et suivants, ça vous montrera à quel point, un, le sang est interdit, ce qui, en soi, ne vous semble pas tout à fait invraisemblable. Mais ici, c'est considéré vraiment comme sacrilège, la consommation du sang. Parce que le sang, c'est la vie, en fait. Hein, la métaphore du sang, c'est la vie, et donc c'est dévorer la vie. Et sauf que, précisément, c'est bien de ça dont il est question. Mais sous l'angle de la métaphore aussi, quand il s'agit de consommer. C'est-à-dire que Jésus fait face effectivement à une sorte de littéralisme face à des croyants qui ont fait que la moitié du chemin. Ils sont d'accord pour dire le sang c'est la vie, donc ne le consommons pas, sauf qu'ils pourraient se dire mais on pourrait consommer au sens de la métaphore, non pas en mâchant avec notre bouche et en déglutissant avec notre épiglotte, mais en s'en nourrissant intellectuellement, spirituellement, vous voyez. Et donc le fait de ne faire que la moitié du chemin fait que Jésus est obligé de leur donner cette petite pichenette supplémentaire.
Mais c'est quand même, là, on a un passage qui est quand même, fondamental. Si on le prend au pied de la lettre, comme les catholiques le font, on dit au sens qui donne à l'Eucharistie. Hein, pour avoir la vie éternelle, il faut manger le corps et le sang. Et c'est la grande rupture avec tous les réformés.
Mais oui, parce qu'après, au 63, il parle de l'esprit, au contraire, ça arrange un peu les choses.
Oui, enfin.
On ne prend pas ça au pied de la lettre.
Bah, c'est-à-dire que, un, on a lu Jean-Jacques Rousseau. Calvin aussi, mais Jean-Jacques Rousseau, je crois que c'est le meilleur sur cette question. Alors, il parle de la scène. Alors quoi, on imagine que Jésus se prend un bras, il le partage.
Non, bon.
Non, mais des fois, il a des traits saillants assez intéressants. Mais surtout qu'on a lu le texte. Et le texte nous met bien, dès le départ, sur un registre de la métaphore. Et c'est ce registre-là qu'il faut suivre jusqu'au bout et pas s'arrêter à un moment donné en disant « Ah non, maintenant, c'est sérieux, c'est matériel. » Quand Jésus se présente comme le pain de vie, et quand il dit qu'il faut même boire son sang, il joue pas au pélican de la légende qui est en train de se laisser dévorer ou se perce les flancs pour donner du sang à ses pitchounes. Le verset 63 nous donnera la clé de lecture. Peut-être qu'on peut lire d'ailleurs les versets 60 à 71. Comme ça, maintenant, on va être tous au même niveau d'information. Quelqu'un pour lire 60 à 71 ?
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est Dieu. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples demeuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vérifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les croirait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui même.
Il aurait mieux fallu traduire par diable que démon, parce que c'est pas le daimonon, c'est le diabolos. Mais bon. Par contre, c'est bien le verbe livrer et pas le verbe trahir. Bien, donc.
Il faut remarquer que toute cette dernière partie qu'on vient de lire,
ouais.
Jésus n'est plus sur les bords du lac. Hein.
Oui.
Il est dans la synagogue. Mmh. Donc, c'est une discussion théologique qui s'instaure avec les gens de la synagogue.
Oui. Et il va leur faire un cours de théologie, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est important, ces clés de compréhension à la fin, parce que lui se place sur le plan de la parole, sur le plan de l'esprit, sur le plan du symbole, et pas sur le plan matérialiste. Hein, il dit bien, ce n'est pas la chair au sens matériel qui compte, c'est pas ça qui fait vivre, c'est secondaire, c'est l'esprit. Alors,
même, oui. Quand on lit le verset, c'est l'esprit qui vérifie, la chair ne sert de rien.
C'est ça. C'est clair quand même.
C'est totalement le contraire de ce qui était dit un petit peu avant. Faut manger la chair, faut boire le sang pour avoir la vie éternelle. Et puis quelques versets après, il dit ah mais la chair.
Mais pas ce genre de chair.
C'est l'esprit qui vérifie.
Ouais. C'est la chair au sens matériel du terme n'est pas ce qui fait vivre, en tout cas ne fait pas vivre à la hauteur de ce que permet l'esprit. On verra plus tard ce que peut signifier l'esprit. Mais le fait que l'évangéliste Jean fasse dire ensuite à Pierre, mais à qui pourrions-nous aller, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? C'est-à-dire qu'il met bien en relation vie éternelle et parole, et pas vie éternelle et chair et sang. C'est-à-dire que le sang et la chair renvoient au logos, renvoient à la parole, renvoient à ce qui nous fait advenir au monde, ce qui nous fait prendre conscience de ce qu'est la vie, mais pas à ces éléments extrêmement factuels. qui sont aussi spectaculaires que le sont les autres miracles, et qui donc ne servent à pas grand-chose. Ça fascine, sur le coup il y a une intensité, une ferveur, et puis la fièvre tombe ensuite.
Mais c'est justement cette dénonciation, entre guillemets, de la fascination du miracle, du spectaculaire, et on est en plein dans le spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui dit à des gens qu'il ne connaît pas, « Mangez ma chair, buvez mon sang », c'est quand même énorme, même encore de nos jours. Quelqu'un dirait ça, on dirait ce type de fou, tout simplement. Et en fait, moi je ne comprends pas très bien cette pédagogie du choc. C'est-à-dire d'ailleurs, à la fin, il y en a quand même qui sont bons.
Ouais.
Alors, est-ce que ce que je comprends pas dans cette pédagogie du choc, c'est on passe d'une foule à 12 personnes. Et donc, à qui s'adresse-t-il? Enfin, à qui ce message-là s'adresse-t-il? Et pourquoi ce rétrécissement comme ça?
Oui. Eh bien, si on s'en tient à la performativité du discours, on peut déjà dire que le constat que vous faites qui est juste a déjà été multiplié, disons, au moins par deux aujourd'hui. On est déjà deux fois plus qu'à la fin de l'histoire. Alors là, nous, autour de la table. Donc le choc, en fait, a été pédagogique et salutaire, vous voyez. Mais il me semble que c'est François qui avait une bonne intuition là, tout au départ, sur la question de ça nous rend actifs, le fait de prendre la métaphore du repas. À mon avis, ce texte a une double fonction. Il a une fonction que l'on a indiquée, lutter contre ceux qui sont fascinés par les miracles, alors qu'effectivement on est en plein contexte de miracles, c'est quand même paradoxal. Il y a une autre fonction, qui est une fonction assez forte de l'évangile de Jean et plus encore des épîtres de Jean, c'est la lutte contre les gnostiques. La lutte contre les gnostiques, c'est ces courants de croyants qui considèrent que le salut s'effectue par la connaissance d'un savoir particulier, d'un savoir ésotérique, qui n'appartiendrait qu'à un petit cercle, et la détention de ce savoir, de cette initiation, permettrait d'accéder à une vie en plénitude. Eh bien là, Jésus disqualifie la tentation gnostique en incarnant la foi dans l'être de la personne. Et au fond, en prenant son corps comme le lieu de la révélation, il prend notre corps comme lieu de la révélation aussi. En disant que la loi, ou la parole, pour prendre ces termes, la parole peut se faire chair. C'est, en fait, il dit ça. Il dit que la parole de Dieu s'est faite chair en lui. Ça signifie qu'elle peut se faire chair en nous aussi. Et pour l'instant, Pierre dit « Je ne vois pas d'autre que toi capable d'incarner la parole divine, d'incarner la parole de vie. » Mais Pierre, à la fin de l'évangile, lui dira « Eh bien, en fait, maintenant, tu es capable aussi. » Et il lui dira « Occupe-toi de mes brebis », c'est-à-dire « Tu es capable d'être toi-même maintenant acteur. Tu as consommé, et bien maintenant tu peux aussi nourrir. » Et au fond, on pourra se nourrir de toi aussi.
On reste, en fait, à trois séquences dans ce texte, et puis on a tendance à rester plutôt dans la première séquence, c'est-à-dire les 5000 personnes qui sont au bord de l'acte. Ça, c'est une première séquence. Ensuite, il y a la période où Jésus marche sur les eaux, et là, c'est une discussion théologique qui est dans la synagogue,
oui,
avec un autre public. En fait, on reste raccroché un petit peu à la même vision. Non, c'est quelque chose de totalement différent. Alors, effectivement, il y a une pédagogie, on sent la pédagogie de Jésus dans cette dernière partie. Il essaye de leur... On sent à la fois l'accélération, et l'accélération dont vous parliez, ça vient peut-être de ce qu'on n'est plus dans le même cadre. On est dans le cadre d'une synagogue, d'une discussion théologique de Jésus avec, finalement, les pharisiens qui étaient à la synagogue.
Oui, mais il y a un seul lecteur, c'est nous. C'est-à-dire que l'évangile n'est pas fait pour relater ce qui s'est passé, il est fait pour nous embarquer dans cette dynamique-là. Et donc, il nous prend tel qu'on est. C'est-à-dire que le récit évangélique nous prend à la fois capable d'être dans notre mouvement de foule et quand même assez fasciné quand il y a quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire que le clinquant, mine de rien, frappe notre attention. Même si on a été bien élevé, bien éduqué en disant « la parole, la parole, la parole, la parole ». N'empêche que quand il y a du spectaculaire, ça ne nous laisse pas tout à fait insensibles. Ensuite, c'est un texte qui nous prend sur nos lieux d'effroi. N'oublions pas que Rodolphe Otto, qui a travaillé sur la sociologie des religions, dit le noumène. Le noumène, c'est à la fois la première et la deuxième séquence. C'est ce qui fascine et ce qui fait peur. C'est-à-dire que le sentiment religieux est à la fois fait de fascination et d'effroi. Et donc, on a dans ces deux premières séquences exactement le noumène actif. Et la résolution, elle se trouve dans la troisième séquence, avec la confiance qui est mise en place, et une confiance qui va se... comment dire... qui va être installée à travers cette pédagogie de la synagogue. Mais comment dépasser et la fascination et l'effroi du sentiment religieux ? Eh bien, en fait, c'est par notre consommation régulière de ces éléments-là.
Je peux revenir à la séquence de la barque.
Oui. Oui, oui.
On est tous centrés sur Jésus marchait sur les eaux. Mais quand on lit le verset 22, que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Mm-hmm. Je me demande si c'est pas ça qui est important pour moi. Les disciples, ils étaient partis seuls, mm-hmm. sans Jésus. Mm-hmm. Et qu'à un moment donné, Jésus va les retrouver. Mais on se dit, marcher sur les eaux, c'est quand même pas semblable, etc. C'est vrai, c'est sur les pluies. Non, mais
oui, oui. Verset 19, ils virent Jésus marchant sur la mer. Oui.
Et ils eurent peur, donc ils ne reconnaissent pas.
C'est de se dire, ils étaient partis seuls. Comme nous, nous sommes aussi souvent partis seuls. Mmh.
Mais quand ils le voient arriver, ils sont saisis de peur.
Oui.
C'est-à-dire que être face à ce que la vie offre à vivre, ça peut être assez effrayant. Vous savez, on dit souvent la liberté, il n'y a rien de plus effrayant. Eh bien, il y a ça. Partir seul, c'est partir libre. Eh bien, comme les Hébreux, on a plutôt envie de revenir parfois en esclavage, mais avec les marmites pleines. Parce qu'on a du mal à voir ce qui est vraiment capital dans la vie. Et au fond, ici, ça nous aide un petit peu à faire une hiérarchisation de ce qui est essentiel dans la vie. Est-ce que ce qui est essentiel, c'est effectivement ce qui est dans l'esprit de la foule, le pain tranché, ou est-ce que c'est un autre pain ? Et quel est ce pain qui va vraiment nous faire vivre et qui va nous permettre de pouvoir faire tout le chemin là ? Oui.
Moi, je dirais aussi que la parole, elle ne peut pas être désincarnée. Et ce texte nous le dit.
Oui, c'est ça.
Parce qu'elle doit rester, enfin, lutte à la fois contre le spectaculaire, mais aussi contre une parole désincarnée. Mmh.
Qui serait la tentation gnostique.
Oui, et que ce qui compte, c'est la présence. Et je crois que c'est ça le symbole.
Mais le Saint-Esprit, il n'est pas.
C'est le pain, enfin, la chair et le sang, dit la présence.
Mmh. Oui, c'est ça. Alors, si on se dit, mais la question de l'esprit, est-ce que ce n'est pas désincarné ? Ben, ça dépend un peu de la théologie de l'esprit qu'on a. Mais si on considère que l'esprit, c'est la relation qu'il y a d'être à être, alors c'est extrêmement incarné, l'esprit.
Oui.
Il n'y a pas plus...
Entre l'éternel et entre nous et Dieu, c'est autre chose.
Alors, une relation entre nous et Dieu, ça peut être une relation extrêmement incarnée, parce que on pourrait considérer que le plus court chemin entre nous et Dieu passe par l'autre.
Ouais.
Donc passe par une autre figure de l'incarnation. Et que c'est l'autre, avec ce qu'il a d'inattendu, qui est à la fois effrayant et rassurant, qui nous met en place du divin.
Il faut le trouver, l'autre.
C'est-à-dire que si on est dans cette compréhension qu'à l'époque, on est en train de sortir de la synagogue, on se fait éjecter de la synagogue aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette question du conflit et que certains ne suivent plus Jésus. Est-ce qu'on assume de se faire éjecter de la synagogue? Est-ce qu'on assume de partir seul, de traverser seul? Est-ce qu'on assume de franchir la frontière, de sortir de la limite de la terre promise? Et est-ce qu'on est assez fort pour cela? Et on va donc être face à des gentils, des étrangers, donc une figure de l'altérité. Mais est-ce que ça ne serait pas en fait la figure du divin aussi? Et ce texte nous montre que précisément, aller vers cette étrangeté, ce n'est pas risquer d'échouer ou de sombrer, parce qu'on a la capacité de rester à flot, et on a même la capacité de découvrir qu'il y a là ce qu'est la vraie vie éternelle, qui n'est pas quelque chose qui nous permettrait d'être immortels. Ils sont morts dans le désert, c'est vrai, mais parce qu'ils ont consommé des choses périssables. Si on reprend ce que dit le théologien Paul Tillich, au fond, Dieu, c'est quoi? C'est l'inconditionné. L'inconditionné, c'est ce qui n'est pas soumis au temps, c'est ce qui n'est pas soumis aux aléas de l'histoire, c'est ce qui n'est pas soumis à nos petits désirs, à nos fluctuations personnelles. Ce qui dure, alors c'est vrai que ça a un rapport avec le temps, mais c'est d'abord en termes de qualité que les choses se jouent. Ce qui n'est pas contingent, en fait. Donc ce qui a une sorte de valeur d'absolu.